vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Nuit, mais les réverbères sont éclairés. Il fait doux. Il a ouvert la fenêtre et regarde en se penchant. Voit son réverbère le vieil homme de tout à l'heure. Il se retourne, se retire en vitesse de la fenêtre. L'homme regarde dans sa direction et doit entendre le bruit de la fenêtre qui s'est ouverte. Vite, il referme en vitesse la fenêtre. Lui donne une grande excitation et le fait marcher dans la chambre. Il m'a suivi tout de même. Qu'est-ce qu'il me veut? Créer un scandale? Me faire chanter? Si mon père apprend ce que j'ai fait à Paris, je suis perdu. Comment faire? Dois-je aller le voir? Lui dire de s'en aller? Comment faire pour me débarrasser de ce vieux? Et s'il me prenait l'idée de sonner, de demander un entretien à mon père, de se présenter comme un de mes amis. Quelle honte! Il retourne à la fenêtre. Il est toujours là. Il ne va tout de même pas rester toute la nuit ici. Il cherche à me narguer, à me faire peur. Il veut que je descende pour que j'aille avec lui dans un coin, lui faire une pipe. Que faire? Je ne vais tout de même pas avoir constamment près de moi cette épée de Damoclès qui va m'empêcher de vivre, de penser. Tant que je l'aurai, je ne pourrai pas écrire. Je ne pourrai rien faire. Non, c'est impossible. On a frappé à la porte. Mon Dieu, on vient m'annoncer qu'il me demande. Entrez.
C'est la bonne. Monsieur, le dîner est servi. Bien, je descends.
«
courant toute la soirée, il tremble chaque fois que la porte s'ouvre. Passe une nuit pleine de cauchemars où il est poursuivi par le vieux. Le lendemain matin, en se levant, il va à la fenêtre et voit que le vieux est toujours au même endroit. Il est furieux. Il exagère, mais à peur. Que veut-il ? Il hésite un moment avant de sortir pour son travail. Mais il se décide de sortir tout de même. Une fois dehors, il part en grand enjambé comme s'il n'avait pas vu le vieux sur le trottoir d'en face. Au bout d'un moment, il se retourne et voit que le vieux, un peu plus loin, il le suit. Il est furieux et se dit que cela vaut mieux qu'il le suive au lieu qu'il aille sonner chez les parents. Quelle honte ce serait. Je m'en vais tout de même pas tourner en rond toute la matinée. Autant l'attendre et lui demander ce qu'il veut, qu'on en finisse. Il attend que le vieux soit près de lui. La rue est déserte, heureusement. Le vieux est près de lui, essoufflé, fatigué. Il a marché vite pour ne pas le perdre. Jean-André lui dit, « Vous allez me suivre ? Vous allez me suivre longtemps ? Et m'espionner longtemps ? De quoi ? J'ai l'air, moi. » Le vieux ne dit rien. « Qu'est-ce que vous voulez à la fin ?» Le vieux hausse les épaules et lui dit, « J'aimerais bien se faire ce que l'on a fait. »« Non, mais ça ne va pas. On me prend pour qui ? C'est fini tout ça. »« Pour un beau garçon que j'ai envie de sucer. Et si je refuse ?» Le vieux baisse la tête et lui dit, « Serai patient, tu accepteras bien un jour. Je t'interdis de rester près de chez moi, ça m'énerve. La rue appartient à tous, et puis je ne fais rien de mal, je ne gêne personne. Si, moi ça me gêne, alors je te prie c'est de t'en aller et de ne plus le suivre. Allez, laisse-moi. » Et Charles-André s'éloigne en marchant vite. Malheureusement, il voit que le vieux continue à le suivre. Il ne va pas aller jusqu'à mon bureau. Quelle honte! Il attend le vieux encore une fois. Et lui dit, tu continues à me suivre, je vais au commissariat. Le vieux lui dit, j'en dirai tout. Jean-André a les nerfs à vif. Écoute, tu veux me sucer, tu vas me sucer. Attends-moi ici ce soir à 20h. En attendant, fous-moi la paix. Là, tu as ce que tu voulais. Alors c'est oui, 20h? Le vieux lui dit, d'accord. Et il laisse Charles-André s'éloigner. Durant toute la journée, Charles-André est furieux. Et à 19h30, après le dîner, il sort de chez ses parents pour aller rejoindre le vieux. Il fait déjà nuit. Je vais en finir de façon définitive. Tiens, il arrive où il a donné rendez-vous au vieux. Eh bien, il est là, ce salaud. Charles-André s'approche de lui et lui demande, tu as l'argent ? Le vieux sort de sa poche un billet et le lui donne. Que ça ? Encore ? Le vieux, surpris, lui en donne un autre en lui disant, j'en ai plus. Charles-André lui dit, furieux, bon, alors, on y va ? On va où ? Il regarde autour de lui et voit là, vers la berge, une vieille baraque d'ouvriers en bois qui semble abandonnée. On descend en bas, le vieux le suit. Arrivé en bas, ils vont vers la cabane. Charles-André pousse du coude la porte. Qui arrivait à s'ouvrir. Ils entrent. C'est une cabane où l'on déposait quelques outils des pelles, des pioches, des brouettes, etc. Charles André ferme la porte. C'est le noir. Ils ne voient que le haut de leur visage à cause de la lumière des réverbères du quai. Charles André est en face du vieux et lui demande « Alors, tu veux sucer ? C'est ça que tu veux, hein ?» Se déculotte, se rhabille, il sort de la cabane et ferme la porte. Il se sauve en courant, remonte au quai, court pendant un moment et s'arrête. Il voit qu'il a les mains sales et les vêtements aussi, décide de rentrer. Chez ses parents, sans être vu, ils sont encore au salon, il est 23h, va dans sa chambre, se déshabille, va dans la salle de bain pour se laver, puis revient. Décide de jeter ses vêtements demain matin et se couche furieux. Celui-là ne l'a pas raté. Quel vieux salaud! Il est mort en faisant ce qu'il voulait faire. Il était coriace et dire que par sa faute, mon sexe a été dans la bouche d'un mort. Malheureusement, dans la nuit, il revit sans arrêt cette scène. Revoit le visage du vieux, sa bouche qui se ferme sur son sexe. Il sent le corps du vieux contre lui. Cela le dégoûte et en même temps, il se rend compte de l'horreur de son geste. Il se réveille plusieurs fois en sueur. Lorsque le matin est là, il n'est pas dans son état normal. Il a honte de ce qu'il a fait. Ça le chagrine. Il est dégrisé de sa colère et se rend compte de l'énormité de son geste. Il vient de tuer un homme, encore une fois. C'est pas la première fois, mais cette fois, c'est d'une façon horrible, inhumaine, abominable, physique. Il se demande comment il a pu faire une chose pareille de cette façon. Suis-je un monstre? Quelle horreur! Tuer quelqu'un en se servant de son sexe. Et je n'ai aucune excuse. Je l'ai fait sciemment. Dans la colère, oui, mais en sachant ce que je faisais. Il reste au lit en réfléchissant à tout ça. Comment se fait-il que moi, un être civilisé, cultivé, qui aime écrire, qui est calme, et pu faire une chose pareille? Comment se fait-il que mon cerveau ait pu inventer une chose pareille? La limite du civilisé entre le bestial est-elle si mince? L'homme cache-t-il un monstre? Est-ce sa vraie nature? Alors comment a-t-il fait pour se civiliser et créer toutes ces belles choses et ces livres, ces lois? La beauté est-elle une invention? Comment l'homme a-t-il pu faire de bonnes et belles choses tout en étant un monstre? Qui pousse l'homme à la civilité, à la bonté, à la connaissance? S'il y a une chose monstrueuse capable d'inventer le pierre des aurores. Comment le bien peut cohabiter avec le mal? Comment l'homme peut-il comprendre le bien s'il est un monstre? Qu'est-ce qui me dirige? Je veux être une chose qui est ni bien ni mal, mais qui me cherche qu'à m'auto-défendre. Car si cette chose était l'une ou l'autre, elle ne pourrait pas nous défendre efficacement. Ce qui fait que le criminel peut être gracié et compris, parce que son acte, le plus horrible qui soit, a été provoqué, programmé par un endroit du cerveau qui ne sait pas ce que c'est que la morale, le remords. Le remords, de toute façon, ne vient qu'après. Il doit être provoqué par la conscience morale du cerveau. Conscience morale qui est hors loi, hors religion, mais qui nous vient de la sensibilité. Une sensibilité qui, au début, n'apportait que la peur, et après la conscience de l'acte, puis ensuite s'est rajouté le remords et la conscience morale. Ces deux parties distinctes de l'esprit l'ont nous fait agir pour se préserver et l'autre fait comprendre les actes et ce qui nous entoure. Et la morale dans tout ça? La morale, c'est sélectionner les actes qui sont bons des autres et ce grâce à la partie du cerveau conscience. Qu'est-ce qu'un acte bon? C'est d'abord celui qui ne nous apporte pas de remords, qui ne nuit ni aux autres ni à soi. Mais malheureusement, il y a l'autre partie du cerveau qui ne sait qu'une chose, qu'il a été conçu que pour cette chose, qui, pour préserver l'être et ses intérêts, est prêt à tout pour le défendre. La morale, il ne connaît pas. Avec ces deux système dans l'homme, y a-t-il place en Dieu? Y en a-t-il besoin? Normalement, non. Nous sommes suffisamment équipés. C'est ce que l'on croit. Mais pour que la partie du cerveau qui est morale puisse fonctionner, il faut l'éduquer. Car l'enfant, sans éducation, ne vit que d'instants et il lui faudra beaucoup plus de temps et d'expérience pour qu'il soit moral. Alors, pour aller plus vite, on l'éduque. Pour aussi aller plus vite, on l'éduque avec l'aide de la religion. Un Dieu qui est au-dessus des hommes, qui dit ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ces commandements sont plus facilement acceptés que s'ils étaient donnés par un simple mortel comme eux. C'est pour cela que les sociétés modernes ont des difficultés à faire appliquer leurs lois. Parce qu'elles sont décrétées par des humains mortels et qui plus est, on peut leur faire changer, modifier ce qu'ils avaient prévu. Tandis qu'en Dieu, on ne peut pas l'influencer. On est obligé d'accepter ce qu'il a décidé de nous faire faire ou interdire. Jean-André soupire et se dit, si j'ai tué d'après ce que je viens de penser, je ne suis pas vraiment responsable. Et je ne faisais que me défendre. Contre quoi? Contre le chantage. Et lui, le vieux, en me suivant, a agi comment? Pourquoi? Son moi, défensif, agissait parce que le vieux était... Parce que pour le vieux, il était vital d'avoir cet acte sexuel. S'il n'avait pas eu, cela l'aurait rendu malade. D'ailleurs, il était déjà presque malade. La preuve, il a passé des heures en bas de chez moi. Et me courir après, comme il a fait. Donc, nos deux instincts défensifs se sont rencontrés. Et l'un gagnait l'autre, parce qu'il était plus fort. Si le vieux était plus jeune, il aurait peut-être gagné. Il a perdu, et j'y suis pour rien. J'espère que personne ne saura rien de cette histoire. Il soupire, et veut se lever. En se disant qu'il ne doit plus y penser. l'après-midi, Apolline se promène. Il fait beau et a envie de se détendre. Sa blancheur, sa mâcheur la fait ressembler à une petite fille. Ses yeux crépus en sont encore plus beaux. Mademoiselle Pauline, elle se retourne et voit monsieur le marquis de Saint-Véran. Il courir après. Il arrive vers elle, tout essoufflé, et lui dit « Pardonnez-moi, mais je viens de loin. Et comme j'aimerais vous parler, je vous écoute, monsieur le marquis. Bien, voilà. Si vous voulez, je vous invite à prendre le thé dans le salon de mon hôtel. Nous pourrions parler plus tranquillement. » Elle hésite. En tout bien, tout honneur. Oui, bien sûr. Il appelle un fiacre et l'amène à son hôtel, place Bellecour. J'ai pas encore les clés de l'hôtel particulier que je viens d'acheter à votre père. Il descend du fiacre et là, il la fait entrer dans son hôtel, un grand hôtel de luxe. Apolline est agréablement surprise. On le mène au salon où se trouvent des gens attablés, buvant et mangeant des gâteaux. Un petit orchestre joue en sourdine. On les mène à une table pour deux. Un maître d'hôtel va vers eux. Vous désirez, monsieur, madame ? Il en montre la carte. Le marquis de Saint-Véran dit à Pauline, choisissez. Ceci est affaire de femme. Merci. Elle commande une tarte aux amandes, une charlotte et du thé. J'ai faim cet après-midi, le marquis lui dit. Comme madame. Le maître d'hôtel s'éloigne. Apolline lui dit, je raffole de gâteaux, j'aime tout ce qui est sucré. Marquis lui dit, vous êtes une petite fille. Pas si petite que cela, le serveur vient leur apporter et leur sert les commandes. Une fois qu'il s'est éloigné, le marquis dit, mangeons, boivent et mangent. Le marquis lui dit, je sais. C'est pas facile. J'ai à vous dire une chose. Voilà. Je vous trouve charmante, délicate et sûre de vous. Vous me plaisez énormément. Apolline sourit. Je souhaiterais, c'est que vous acceptiez de devenir ma femme. J'en serais très heureux. Apolline ne sait quoi répondre. Il lui dit, vous seriez très heureuse avec moi. J'ai des biens, beaucoup de biens. Vous vivriez dans un manoir. J'ai des domestiques. Vous n'auriez rien à faire qu'à penser à vous. Il ne suffira que de demander pour qu'on aille faire tous vos désirs. Je suis une personne simple qui n'a besoin de rien. Ma seule joie sera de vous voir heureuse. Vous faire tout ce que vous voudrez. Ma fortune est à vous. Elle n'est pas mince. Ma famille est très intime avec l'empereur et d'une grande partie des terrains de Paris, Lyon, Bordeaux nous appartient. Nous avons des actions dans les chemins de fer. J'ai plus l'âge pour me marier, mais mon corps est prêt de vous. Et puis, mon père encore près de vous à 20 ans. Voilà. Voilà. Je vous ai tout dit. Je vous demande de réfléchir et vous me donnerez une réponse. Apolline se dit qu'elle aurait dû attendre qu'elle ait fini de manger ce délicieux gâteau. Maintenant, elle ne peut pas. Elle se sent toute chose à cause de lui. Il continue. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois que vous êtes troublée. Elle lui répond. C'est-à-dire que je suis surprise. Je ne m'attendais pas à ça, quoi. Un si grand honneur. Le marquis lui dit. Oh, c'est moi qui suis honoré si vous acceptez. Je vais réfléchir en paix. Et puis, je vais en parler à mes parents. Bien entendu, cela est normal. Terminons tranquillement notre goûter. Tout en mangeant, Apolline voit assise en face d'elle, à une table près de la leur, un jeune homme d'une vingtaine d'années, blond, beau comme un dieu. Il ne cesse de la regarder. Elle, elle le regarde tristement, en se disant qu'elle va sacrifier la joie d'avoir un beau jeune homme pour l'argent d'un vieux. Cela lui fait mal. Elle a affreusement envie de faire l'amour avec le jeune homme. Une fois qu'elle a fini son gâteau, elle lui dit « Pardonnez-moi, mais il est temps que je parte. » « Oui, bien sûr, je vous accompagne. Bon, merci. » Ils se lèvent tous deux. La raccompagne jusqu'à la sortie du salon. Avant qu'elle ne parte, il lui dit « Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir bien voulu m'écouter. » Il lui dit « Non, c'est moi qui vous remercie. » Et juste au moment où elle se retourne pour s'éloigner, elle voit que le jeune homme qui la regardait va aussi sortir. Sur l'hôtel, sur le trottoir, elle attend le jeune homme. Il sort. Leurs regards se croisent. Elle lui sourit et se met en marche. Une marche d'un pas régulier. Ni trop vite, ni trop lentement, pour que le jeune homme puisse la suivre. Elle sait qu'il la suit. Elle a le corps qui bat. Elle a chaud, elle se moque de ce qu'on doit penser d'elle. Elle se dit qu'elle peut bien se payer ce petit plaisir. Les deux frères ne semblent plus s'occuper d'elle. Puis elle se dit, faut que je trouve un endroit, pas trop loin, pour qu'il ne se décourage pas. Où aller, mon Dieu? Peut-être ne se suit-il plus? Elle tourne la tête et le voit. Elle panique. Il faut seulement que je trouve un endroit. Arrivé à un tournant, je ne sais plus où aller. Faut-il traverser? Aller droit? Elle hésite. Tout à coup, elle se voit pris par le bras et menée délicatement. Elle regarde ce jeune homme qui la regarde. Il se sourit. Le jeune homme la fait entrer. Thank you. nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.